professionnels de santé et du bien-être, curieux d'innovation, le NutriTalk Gala revient pour une deuxième édition exceptionnelle. Cette année, cap sur la santé mentale, émotionnelle et cognitive, avec la nutraceutique en fil rouge, intervention d'experts visionnaires, conversations inspirantes, découverte d'actifs d'intérêt, un programme riche et captivant. Le NutriTalk Gala, c'est aussi des moments uniques avec des shows surprises pour une journée et une nuit à la fois inspirante, divertissante et festive. Rendez-vous le 12 juin sur la French Riviera au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.
Véronique Liès, Nutri Radio, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Alors, c'est pas vous, mais je me sens. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'intimité qui s'est créée entre nous depuis qu'on a fait une émission sur le microbiote fécal. On a quand même. C'est des sujets qu'on n'a pas l'occasion d'aborder avec tout le monde, madame.
Non, certes.
Un peu soirée, c'était un peu émission doubichou, c'est particulier quand même. Je vous invite à réécouter l'émission en podcast sur le microbiote fécal, la transplantation du microbiote fécal, c'est en réalité un peu dégueu, un peu cracra, mais dans l'idée comme ça qu'on s'en fait, mais en fait c'est très utile, la science avance et ça peut résoudre beaucoup de maladies chroniques, notamment le syndrome de l'intestin irritable, même si aujourd'hui c'est conditionné uniquement dans le cadre d'une pathologie qui est le nom de cette bactérie, comment elle s'appelle ?
Clostridioïdes difficile, et vous voulez
voilà,
dire.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
J'étais encore dans ce truc-là.
Mais vous dites, vous savez quoi ? Vous dites c'est difficile, et comme ça vous pouvez pas vous tromper.
Ah oui, voilà, c'est difficile, mais. Voilà, la science avance et aujourd'hui, avec aussi des banques du microbiote fécal, des banques du microbiote, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je savais que finalement, on pouvait recycler tout cela. Bien, alors Véronique Liès, merci d'être avec nous. Est-ce que vous serez le 12 juin au NutriTalk Gala ? Vous viendrez nous faire un petit coucou si on vous invite ?
Ah ben, bien sûr, si je suis invité, c'est clair.
Vous êtes invité en guest star. Donc ce sera le 12 juin, rendez-vous sur le site nutriradio.fr. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux dans ces émissions. Et puis surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si c'est sur Spotify, abonnez-vous. Alors YouTube, on n'est pas hyper présent. Mais on a essayé de mettre des choses un peu sur YouTube comme ça. Si vous pensez à vous abonner, tant mieux. Mais vous attendez pas non plus pour l'instant à quelque chose de fou. Par contre, allez sur NutriTV. NutriTV, là, on est costaud. Là, ça monte. Masterclass. Je ne sais pas si vous avez vu celle de Christian Vélo qui vient de sortir, mais allez-y. C'est sur NutriTV. On attend celle de Véronique Liès. On va faire ça. Vous allez nous faire ça, Véronique ?
Mais bien sûr.
Eh oui, alors les masterclass, je vous explique. Les masterclass de NutriTV, c'est vraiment fascinant. Et ça va vous donner envie d'aller plus loin dans de la formation, peut-être. Formation pour aller encore plus dans le détail. C'est une espèce de on pré-mâche un petit peu le travail, on parle d'un sujet, ça vous donne envie d'en savoir plus, et là, boum, il y a des solutions. Il y a par exemple Véronique Liès qui propose des choses très très complètes, mais on n'est pas là pour faire la promotion des uns et des autres, mais un petit peu quand même, allez-y Véronique.
Vous voulez quoi, que je fasse ma promotion ?
Mais si vous voulez que je vous dise moi oui.
Non, je vous charrie.
Véronique Liès, on va parler de quoi aujourd'hui ? Vous m'avez dit, tiens, faisons un sujet sur cette bactérie qui colonise l'estomac de millions de personnes. Elle est là, elle n'est pas là, elle est là, elle se manifeste, manifeste pas. Quand elle se manifeste, bon, je veux dire que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est l'Helicobacter pylori qui peut déclencher des ulcères, voire des cancers.
Mais oui, exactement. Donc, c'est vrai que quand on voit ça, on comprend mieux pourquoi les gastro-entérologues veulent absolument éradiquer cette souche. Donc, Helicobacter pylori a été, et est toujours, très longtemps impliqué dans les problèmes gastriques, et donc ça tourne beaucoup autour de l'estomac. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont porteuses de cette souche et qui n'ont pas nécessairement des symptômes. Donc après il y a des zones dans le monde où il y en a un petit peu plus, par exemple apparemment, alors en Europe il y en a beaucoup, hein, mais en Afrique il y en aurait encore plus, et on se demande pourquoi certaines personnes vont développer un carcinome gastrique, hein, donc, et d'autres pas. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avance un petit peu dans la connaissance et qu'on se rend compte que finalement ça pourrait aussi être lié à la présence d'autres souches. Donc, ce ne serait pas que Helicobacter pylori la responsable, mais qu'en fonction des bactéries qui accompagnent cette souche, on aurait un risque plus important, on va dire, de développer des maladies.
Alors, on dit souvent que l'estomac, c'est un peu trop acide pour que les bactéries y survivent. Comment cet Helicobacter pylori réussit à s'y installer et à résister à cet environnement un peu extrême?
Mais ça fait partie de ses caractéristiques. Donc, vous avez, c'est une souche qui est très, très résistante à pH bas, c'est-à-dire à, quand il y a beaucoup d'acidité. Et donc, en plus, c'est un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais c'est une bactérie qui contribue un petit peu à faire en sorte que le pH soit moins acide dans l'estomac. Et après éradication, il y a des gens qui continuent à avoir des symptômes, voire plus parfois, parce que justement l'acidité devient plus importante. Donc c'est une souche qui n'est pas facile à... comment on va dire ça, à appréhender, parce qu'elle est très très résistante et elle nécessite une prise en charge en général de plusieurs antibiotiques avec malheureusement des conséquences importantes en termes de santé, puisque vous avez bien compris que quand on détruit le microbiote d'une personne, ben, il met du temps à s'en remettre et ça a des conséquences. Et ici, comme on utilise en général 3 voire 4 antibiotiques différents, eh bien fatalement, les dégâts sur le microbiote sont importants.
On va marquer une petite pause et vous nous direz après si vous avez évidemment, parce que ces émissions, vous savez qu'on les prépare de manière, Véronique vient avec ses connaissances, mais comme on est dans le conversationnel, ça peut aussi aller loin, il y a parfois des éléments que vous n'avez pas, mais est-ce que vous avez prévu de nous dire à un moment donné, quand on la traite avec ces antibiotiques et donc avec les dégâts que cela peut faire, réensemencer le microbiote de manière efficace, ça vous allez nous donner ça en fin d'émission?
Allez, on fait ça.
Oh, c'est cadeau, c'est juste après ceci sur notre radio.
La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri Radio.
L'Helicobacter pylori qui colonise l'estomac de millions de personnes, qui déclenche parfois des ulcères, voire des cancers. C'est une bactérie qui est là et qui parfois se manifeste. Alors vous avez dit que les gastro-entérologues veulent absolument en faire la chasse, mais si elle ne se manifeste pas, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu... pardonnez-moi, mais mon inculture et mon ignorance là-dessus, mais vous savez, il y avait une grande mode avant de retirer l'appendicite. Et en fait, on s'est dit aujourd'hui, bah non, il faut pas. Est-ce que ça va pas être... et en plus, par rapport à ce que vous nous avez dit en première partie d'émission, que c'était pas forcément elle de manière isolée, mais si aujourd'hui on se met à la chasser, est-ce que dans quelques années, on va pas nous dire « Ah oui, mais en fait, elle était indispensable pour préserver ça ?»
Alors, aujourd'hui, très sincèrement, je ne connais pas davantage à avoir de l'Helicobacter pylori. Par contre, il est potentiellement possible, mais vous savez, moi je ne suis pas médecin, donc je ne vais certainement pas m'avancer là-dessus, il est possible que, en effet, des personnes asymptomatiques aient plus de désagréments de traiter que de ne pas traiter. C'est-à-dire que si on leur donne un traitement qui leur fait beaucoup de mal au microbiote, on ne sait pas très bien ce que ça peut avoir comme conséquence après. Donc, il y a un petit peu de polémique là-dessus, mais quand même, la grande majorité des gastro-entérologues, mais vraiment la toute grande majorité, considère que dès qu'il y a diagnostic, identification d'Helicobacter pylori, pif, on va essayer de l'éradiquer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a dans l'assiette des aliments ou des ingrédients qui contribuent à la gravité d'Helicobacter pylori. Une personne qui est porteuse d'Helicobacter pylori et qui mange très salé, eh bien, peut très clairement aggraver son cas et augmenter le risque de cancer de l'estomac. Ça a été montré. Donc, plus vous allez manger des choses salées, transformées en étant porteur, plus vous augmentez votre risque de cancer de l'estomac. Alors que, à l'inverse, vous avez dans l'alimentation des ingrédients qui sont plutôt protecteurs. Et c'est notamment le cas du sulforaphane. Donc le sulforaphane, c'est une substance qu'on va retrouver dans le brocoli, les jeunes pousses de brocoli. Et il semble que ce sulforaphane ait un effet antimicrobien, anti-Helicobacter pylori, assez intéressant, en plus de protéger la muqueuse gastrique. Donc l'idée, c'est de dire, ben, on y va sur les choux, les pousses de brocoli, etc. Ça peut avoir un effet protecteur. Et puis il y a une deuxième catégorie d'aliments qui peuvent protéger, Alors, je voudrais quand même préciser que je ne suis pas en train de dire, si vous avez un Helicobacter pylori, que vous le savez, mais que vous n'avez pas de symptômes, surtout ne vous faites pas traiter. C'est certainement pas ça le message. Par contre, si vous avez un Helicobacter pylori que vous devez traiter, comme les souches sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques, eh bien, en complétant votre alimentation de tous ces polyphénols, de ce sulforaphane et même de certaines souches probiotiques dont on parlera, eh bien, vous allez augmenter les chances d'éradiquer Helicobacter pylori, ce qui est quand même une bonne chose. Et c'est vrai que si vous ne le traitez pas, si c'est votre décision avec celle de votre médecin, eh bien le fait de manger comme ça va plutôt favoriser un développement très infime, on va dire, de la bactérie. Donc, dans les ingrédients qu'on a à mettre au menu, vous avez aussi les polyphénols. Les polyphénols, c'est quoi? Ça va être le thé vert, ça va être le curcuma, ça va être la propolis. La propolis est également très intéressante comme antibactérien et va notamment être capable d'inhiber l'adhésion d'Helicobacter pylori. Or, c'est justement parce qu'Helicobacter pylori adhère qu'il fait des dégâts, il fait des gastrites, il fait des trous dans l'estomac. Vous avez aussi, pour empêcher l'adhésion d'Helicobacter pylori, les cranberries, hein, les fameuses cranberries qui aident aussi contre Escherichia coli. On a déjà parlé, je pense, de tout ce qui est ail, puisque l'ail contient une substance qui s'appelle l'allicine. Et l'allicine est un très puissant antibactérien naturel et qui contribue aussi à l'inhibition de la croissance d'Helicobacter pylori. Alors, je précise que l'ail cuit, malheureusement, ça marche pas parce que la cuisson va détruire l'allicine. Donc l'ail doit se consommer cru ou sous forme d'extrait d'ail. Ça existe. Vous avez même de l'huile d'ail sur certains sites. Ça s'appelle de l'huile d'ail. Et donc ça a vraiment un effet antibactérien démontré. Et donc c'est intéressant. Même le yaourt en fait a des effets intéressants aussi sur Helicobacter pylori. Donc on a tout intérêt quand on a. Alors, vous savez, il y a des gens, ils ont été traités et ça s'est tellement mal passé qu'ils veulent pas refaire de traitement. Bon, ils ont mal supporté parce que leur microbiote a été pas mal endommagé. Eh bien, ça, c'est vraiment des conseils intéressants qu'on peut leur donner. C'est vraiment de manger énormément de polyphénols, de l'ail, des choux pour le sulforaphane et donc d'essayer vraiment de maintenir cet Helicobacter pylori le plus loin possible de la muqueuse d'une part ou d'inhiber son développement. Et je vous ai dit, même les yaourts, il y a des publications. Alors, j'ai pas dit qu'un yaourt allait éradiquer Helicobacter pylori. Encore une fois, il ne faut pas non plus exagérer, mais on maintient la croissance sous contrôle. Et donc, ça peut être quand même pas mal pour certaines personnes.
C'est toujours fascinant. Je suis toujours étonné, moi, de cette passion microbiote que j'ai. Et alors, sur cette bactérie, maintenant que vous nous avez bien décrite, est-ce que vous pouvez nous donner des signes pour savoir si on est infecté? Quels sont les symptômes?
Alors, ces symptômes ne sont pas spécifiques. C'est ça le problème. Donc, d'une part, vous pouvez ne rien avoir du tout. Okay, donc, vraiment aucun symptôme. Vous pouvez avoir des problèmes de gastrite qui soit se sentent, soit vont se voir à la gastroscopie, et c'est aussi pour ça qu'on conseille de faire une gastroscopie à partir de 50 ans, tous les 5 ans, je pense, ça c'est les recommandations, voire tous les 10 ans s'il n'y avait pas de problème. Et puis, donc, en général, c'est vraiment petite brûlure d'estomac, aigreur, mais comme j'ai dit, c'est pas spécifique. On peut évidemment tout à fait avoir des brûlures d'estomac et pas avoir d'Helicobacter pylori. Mais en général, le médecin, le gastro-entérologue, c'est la première chose à laquelle il pense quand il y a des symptômes gastriques. C'est l'évidence. Donc, il faut jamais sous-estimer des douleurs d'estomac, pas se dire « Oh, ben c'est le stress », c'est peut-être le stress, mais peut-être que tout d'un coup, et ça peut être à partir de 50 ans, hein, c'est pas, ça peut arriver d'un coup comme ça, ça peut tout d'un coup être cet Helicobacter qui se manifeste. Alors, on l'a beaucoup localisé dans l'estomac, Et je voudrais dire aussi que dans la littérature récente, on a quand même identifié aussi que Helicobacter pylori peut se promener. Et notamment, en général, il est aussi très présent dans la bouche. Moins que dans l'estomac, mais on en a aussi dans la bouche. Donc, on pourrait peut-être, par certains tests que je ne connais pas et qui n'existent même peut-être pas encore, mais identifier la présence de cette souche. Si vous l'avez dans la bouche, ben, vous l'avez fatalement dans l'estomac. Hein, donc, ça c'est très clair.
Véronique Lies, c'est voilà, passion, attention, tous les hypochondriaques, cachez-vous, parce que là, on va se dire, on l'a peut-être tous, car les brûlures d'estomac, ça arrive plus souvent qu'à son tour, et c'est gênant. Alors, on a parlé de cela, et évidemment, on vous conseille d'aller vous faire, en cas de doute, ou si vous avez l'âge aussi requis, peut-être d'aller consulter votre gastro-entérologue pour faire les tests nécessaires, puisqu'on a vu que ça se diagnostique aussi assez bien aujourd'hui. Est-ce que, quand même, on dit souvent qu'il y a des tests sanguins qui sont fiables pour ça, c'est ça, ou c'est la colo, c'est quoi, la fibro?
Non, en général, le test est vraiment la gastroscopie. Et puis après, vous avez des anticorps qu'on peut voir dans le sang. Et tout ça, c'est évidemment prescrit par un médecin.
Il n'y a pas de test respiratoire non plus ?
Absolument. Vous avez un kit où vous devez boire une potion magique. Et puis, vous devez souffler. Et en fonction de l'expiration, il peut détecter la présence d'Helicobacter pylori. Vous avez tout à fait raison.
Parce que la fibro ou machin, enfin, c'est quand même assez invasif, ça. Moi, je sais pas.
Absolument, c'est invasif, mais en général, c'est le diagnostic de référence choisi par les gastro-entérologues. C'est vraiment la gastroscopie, parce que ça permet aussi de voir les dégâts et ça peut orienter justement la décision du médecin sur le fait de traiter ou pas traiter. Qu'un patient qui aurait absolument une muqueuse nickel, pas de symptômes, il n'est pas du tout certain que le médecin va suggérer d'aller donner 3 antibiotiques d'un coup, parce qu'en plus, en général, ces antibiotiques, bah, ils sont associés à des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, donc pour avoir l'effet antiacide. Et on sait très bien que cette association antibio et IPP, c'est pas ouf quoi pour la qualité du microbiote et sa composition. Donc, un médecin qui peut voir vraiment de visu par la gastro qu'il y a des lésions, ça va l'orienter en tout cas dans la prise en charge. On fait juste le test respiratoire, ben, on ne sait pas du tout si c'est possible, enfin s'il a fait des dégâts. Voilà. Donc dans le sens, ce n'est pas le meilleur test. Le test respiratoire, c'est surtout utilisé quand on a traité et qu'on veut vérifier s'il y a eu éradication.
D'accord,
donc, en général, c'est ça le protocole. Et puis, vous avez des antigènes dans les selles aussi. Mais donc, ça, c'est vraiment à faire avec le médecin, hein, bien entendu.
Parce que là, c'est une espèce de trithérapie, hein, l'inhibiteur de pompe à protons, deux antibiotiques. Et on parle aussi même de quadrithérapie.
Quadrithérapie, ça, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui. Et autant vous dire, comme je disais, que ça fait des ravages quand même sur la composition du microbiote. Je rappelle que parfois, c'est absolument indispensable parce qu'on a quand même une personne sur 100 en moyenne qui va faire un cancer de l'estomac, c'est pas rien, hein, une sur 100. Et que vous disiez on va tous devenir hypochondriaque, ben, en fait presque 50% de la population serait porteur ou porteuse de cette bactérie. Donc c'est énorme.
Une bonne nouvelle, on a plus de chances de ça que de gagner au loto, si j'ai bien compris. Hein.
Ah mais clairement.
Oh, quel démoralisateur. Parlez-nous quand même des germes de brocoli, parce que ça, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, mais apparemment, c'est efficace.
Mais c'est ce que je vous ai dit, donc tout ce qui est brocoli, c'est efficace. Le sulforaphane existe aussi sous forme de complément alimentaire. Et alors, ce qui a aussi été montré, qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a une amélioration. D'abord une baisse de la charge bactérienne, c'est-à-dire que je vais vous parler de probiotiques là. Vous avez grâce à certaines souches une baisse de la charge bactérienne et une amélioration de l'efficacité des antibiotiques et moins d'effets secondaires. Donc si quelqu'un qui nous écoute, nous entend, est occupé à prendre un traitement ou doit prendre un traitement, il faut savoir que le Saccharomyces boulardii, dont j'ai déjà pas mal parlé, diminue la colonisation et réduit les effets secondaires des antibiotiques, puisque quand on prend autant d'antibiotiques, il y a quand même souvent des diarrhées, des choses comme ça, donc le Saccharomyces boulardii est très bien. Et puis vous avez le Lactobacillus reuteri DSM-17938, qui est vraiment une souche qui a aussi démontré son efficacité dans la diminution de la charge bactérienne. Donc, en gros, vous avez moins d'hélicobactères pylori, ce qui est quand même vachement intéressant.
Alors, évidemment, mesdames, messieurs, tout cela ne se substitue pas à un avis médical ni à un traitement. Et puisqu'on parle de traitement, est-ce que, dans le futur, on pourrait imaginer un vaccin contre cela ? C'est stupide ce que je vous dis ou...
Je ne sais pas si c'est stupide, mais ça sort en tout cas de mon domaine de compétences. Mais si c'était possible, je pense qu'il y a déjà un petit temps que ça existerait, mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas. Ici, le message que je
ou un
pense...
un probiotique spécifique peut-être.
Alors, les probiotiques, ça je l'ai dit, non, clairement, on va avoir un effet, en tout cas dans les souches qui sont disponibles aujourd'hui. Et après, on ne peut pas exclure qu'on trouve des phages. Je pense que ça, c'est encore plus l'avenir des phages, c'est-à-dire des virus de bactéries, qu'on puisse identifier un phage qui est capable de tuer juste Helicobacter pylori. Ça, c'est vraiment l'avenir, hein. Ça, c'est ce qu'on cherche à développer aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir développer des virus qui vont être capables de tuer une souche de façon extrêmement ciblée. Et puis, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit aussi en début d'émission, c'est que l'Helicobacter pylori semble vraiment prendre semble augmenter en toxicité en fonction de son environnement. Et donc, il n'y a pas que l'éradication des Helicobacter pylori qui peut sembler intéressante, c'est aussi une modulation de l'entièreté du microbiote et buccal et intestinal. Puisque, voilà, il y a vraiment aujourd'hui toute une série de souches qui ont été démontrées comme étant impliquées dans tout ce qui est néoplasie, etc. Donc, risque de cancer gastrique. Donc, c'est vraiment cet environnement autour d'Helicobacter pylori qui va être susceptible d'augmenter le risque ou pas de développer des pathologies. Donc il faut retenir que c'est important d'éradiquer et en tout cas de faire confiance à son médecin, que par l'assiette on peut améliorer les traitements, notamment antibiotiques, par l'assiette et par la prise de probiotiques. Et donc, dans tous les cas, ça vaut le coup de manger beaucoup de végétaux, du sulforaphane, des polyphénols, de prendre des bonnes souches bien spécifiques. Il y a des labos qui ont développé vraiment cette souche. Elle est tout à fait disponible dans le commerce. Elle n'est pas très difficile à trouver.
Eh bien, merci beaucoup Véronique, c'était encore une fois très intéressant. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en vous rendant sur le site nutriradio.fr dans le formulaire, en remplissant le formulaire de contact, en précisant Révolution Microbiote ou Véronique Lies, ou les deux si vous voulez, et par le numéro de téléphone que je vous donne, 0666 945 902. 0 666 945 902. Un petit message via WhatsApp, on sera évidemment ravis de vous répondre. Et si vous nous avez déjà envoyé un message et qu'on ne vous a pas répondu, insistez un tout petit peu, on le fera. Et on est vraiment désolé de ce laps de temps qui traîne, mais on a encore une fois, je le dis, une boîte pour tous les messages, donc ça fait quand même beaucoup beaucoup de messages. Et bon, c'est pas qu'on se la raconte, mais que c'est qu'on n'est pas 10 000 non plus. Donc, ça prend un petit peu de temps. Bien, merci beaucoup Véronique.
Mais avec plaisir Fabrice, à bientôt.
Émission dispo en podcast tout de suite là, si vous voulez vous la refaire en intégralité sans les interruptions, c'est sur nutriradio.fr. Et là c'est le retour de la musique.
La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutriradio.